Alors bonsoir, content de vous voir, mes frères et sœurs. Le titre que vous voyez est bon, mais la référence n'est pas bonne. Je vous demande plutôt de trouver le psaume 119. Et j'aimerais continuer un peu le thème de la prière que nous avons eu le mois passé. J'étais dans une discussion avec quelqu'un la semaine dernière, et j'ai eu la pensée que beaucoup d'idées que j'ai eues moi-même et qui m'aident encore dans ma pratique spirituelle sont venues de mes professeurs chrétiens ou des professeurs dans des écoles de dimanche ou des pasteurs dans mon passé qui ont partagé des idées que j'ai pris parfois, que j'ai développées. Et je crois que dans nos vies de prière, c'est encourageant de pouvoir entendre des idées pour nous aider nous-mêmes. Donc, c'est jamais qu'il faut faire exactement comme fait quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes comme moi, vous êtes toujours à la quête d'inspiration. Donc, je veux toujours être inspiré à mieux faire, alors je suis plus près du Seigneur, à me remettre dans la parole, à me remettre dans la prière. Et je veux donc vous donner peut-être une idée pour votre vie de prière. Mais je veux parler de cela sous le thème de poursuivre la volonté de Dieu dans la prière. La prière est souvent perçue comme l'outil par lequel nous poussons Dieu à faire notre volonté. En fait, la Bible nous ordonne de faire connaître nos besoins à Dieu, n'est-ce pas? Philippiens 4, 6. Nous pouvons même lui faire part de nos souhaits et de nos plus profonds désirs, comme a fait notre Sauveur lorsqu'il a prié: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais ceci dit, il faut réaliser que la prière, ou l'accès que nous avons à Dieu dans la prière, nous est pas donné pour agir comme un lobbyiste auprès d'un politicien. Vous savez ce que font des lobbyistes? Ils ont des intérêts très spécifiques. Et puis ils vont chercher à avoir accès à ces hommes ou ces femmes qui ont de l'importance dans le gouvernement afin de promouvoir ses propres intérêts ou au moins les intérêts de son groupe qu'il représente, son lobby qu'il représente. Et souvent dans la Bible, dans la prière, c'est comme ça. Nous allons vers Dieu pour promouvoir nos intérêts, nos désirs ou peut-être les désirs de nos proches. Et nous oublions trop souvent que la prière modèle que Christ nous a donnée, dans cette prière, Jésus nous a dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre premier désir, notre plus grande requête dans la prière doit être que Dieu fasse sa volonté. Il faut réfléchir à cela. Dieu nous commande de le prier, de faire ce qu'il veut. C'est ça le commandement. Il nous dit pas seulement qu'il va faire ce qu'il veut. Le psaume 115, verset 3 dit: notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc la Bible nous dit que Dieu va faire tout ce qu'il veut. Il dit même qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Daniel 4, 32 dit: personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher: que fais-tu? Pourquoi? Parce que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. Mais plus que cela, Notre Dieu se croit tellement grand qu'il nous ordonne de supplier, de le supplier, de faire ce qu'il veut. Donc nous devons poursuivre la volonté de Dieu dans nos prières. Est-ce que nous essayons de faire cela dans la prière? Poursuivre, promouvoir, supplier, faire avancer la volonté de Dieu. Alors je vais lire les premiers versets du psaume 119. Dans la Bible en français courant, juste pour changer un peu l'approche, vous allez noter que les trois premiers versets sont des constats. Et le psaume commence, comme Jésus commence son serment sur la montagne, avec des béatitudes. Et il dit ceci. Verset 1. Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Donc un constat. Qui sont heureux? Verset 2. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ceux-là ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Et maintenant, verset 4, il va s'adresser à qui? À Dieu maintenant, n'est-ce pas? Au Seigneur. Il dit, toi Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte avec soin. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière, mais ce n'est pas encore une requête. Il parle à Dieu, de la parole de Dieu, et de la raison pour laquelle Dieu nous révèle sa parole. Il dit, toi Seigneur, tu as révélé tes exigences pour qu'on les respecte, ou qu'on les observe avec soin. Alors vous savez, quel est le grand sujet de ce psaume? C'est quoi? C'est la parole de Dieu, voilà. Et nous pouvons dire que ce sont des paroles d'un homme concernant les paroles de Dieu. Et à partir du verset 4, ce sera toujours avec ce pronom. Tes exigences, tes commandements, tes instructions, ta volonté. Donc, on voit non seulement que l'objet de ce psaume, non, le sujet de ce psaume, c'est la parole de Dieu, mais l'objet de ce psaume, c'est quoi? C'est-à-dire, nous savons de quoi il parle, maintenant dites-moi à qui il parle dans ce psaume. Il parle à Dieu, donc il parle de la parole de Dieu, mais il parle au Dieu de la parole. Il s'adresse à Dieu. Est-ce que vous avez cette pratique de parler à Dieu de sa parole? Mais nous pouvons ajouter encore une étape à ceci, car nous savons que ce n'est pas par une volonté humaine, une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé ou porté par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est Pierre qui nous dit cela. Donc ce psaume ne trouve pas sa source dans l'homme, mais en Dieu. C'est donc Dieu qui instruit l'homme comment parler de sa parole à lui-même. Comment lui parler de sa parole? Donc on peut dire que Dieu est la source, et puis de ce psaume, la parole de Dieu est le sujet, mais l'objet s'est dirigé encore vers Dieu, parce qu'il parle à Dieu. Et les quatre premiers versets sont objectifs et didactiques. Bienheureux ceux qui, etc. Et on a la troisième personne du pluriel, ceux qui suivent, etc. Il aurait pu rester comme ça et on aurait eu un psaume un peu comme le psaume 1. Hein, heureux l'homme qui ne marche pas, etc. Cependant, c'est à ce stade, au verset 4, que le psalmiste se projette dans la scène avec le pronom personnel « je ». Et il va rester actif jusqu'à la fin du psaume. Presque chaque verset à partir du verset 4 est une prière. Mais voici ce que je trouve instructif. Sa première référence à lui-même se présente sous la forme d'une prière passionnée. C'est-à-dire, il ne part pas d'un engagement, il commence pas avec une promesse ou une plainte, mais une prière fervente, une prière ardente. C'est au verset 5 où il dit, regardez-le ici. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Nous avons ici le mot « ah ». Je ne sais pas si vous l'avez dans votre traduction. C'est une interjection qui, dans la langue parlée, dans le discours écrit, qui la reflète, je vous lis le dictionnaire ici, sert à marquer avec l'aide d'intonation appropriée, c'est-à-dire « ah ». »« ah ». Divers mouvements affectifs très vifs. Ça exprime en fait de l'émotion. Et malheureusement, le mot ne se trouve même pas dans les différentes éditions du Louis II. Et c'est dommage, parce qu'il est là, dans l'hébreu. Et je vous encourage de l'ajouter au début du verset, de l'écrire même dans la marge. C'est un mot qui apparaît deux fois seulement dans l'Ancien Testament. Et l'autre occurrence vient de la bouche d'une jeune fille, probablement d'une jeune adolescente. Donc on peut dire que c'est le langage des jeunes, hein, je vais le dire comme ça. Ça se trouve en 2 Rois, chapitre 5, qui parle des Syriens qui étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et vous savez que Naaman était très malade, hein, il était lépreux. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Vous voyez que dans Louis II, la traduction qu'elle donne à ce mot est « Oh !» avec point d'exclamation dans la traduction. Et c'est ce même mot qui se trouve au début du psaume 119:5. Donc vous pouvez choisir entre « O » ou « A » hein, pour commencer le verset 5. En fait, j'ai cherché les différentes traductions, je vous donne ce que j'ai trouvé. Parole de vie, Bible français courant, disent tous les deux « A ». Et puis le Darby et l'Osterwald disent « O ». Et puis j'ai trouvé très intéressant le Martin de 1744, il traduit ce petit mot hébreu avec six mots français. Qu'il te plaise, ô Dieu. Il n'y a pas le mot Dieu dans le texte, dans ce verset. Mais M. Martin se permet de l'utiliser afin de pouvoir capter l'esprit de ce mot. Il se sert de six mots pour traduire cette exclamation. Ah, qu'il te plaise, ô Dieu. Il veut exprimer l'émotion qui se trouve dans ce mot. Donc n'ayez pas peur de l'ajouter, vous voyez que des traductions, différentes traductions, le mettent. Et vous voyez sa passion, son fort désir. En fait, la Bible est là pour nourrir notre passion. Elle est là pour nous pousser, que nous sentions fermement par rapport à certaines choses. Elle n'est pas donnée pour nous rester, pour qu'on reste indifférent. Et la passion s'exprime dans la prière. C'est là où elle s'exprime. Il semble que la principale façon d'interagir avec le sujet divin de ce psaume, quand on parle de ce psalmiste, c'est par la prière et par la pétition pour demander à Dieu d'obtenir l'aide dont il a besoin pour vivre comme Dieu le veut. Pensez même à ce qu'une telle prière véhicule. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de la parole de Dieu? Il dit « Ah, puisse-je marcher dans tes sentiers ?» Ça communique, je crois que vous serez d'accord avec moi, ça communique le désir. Et si quelqu'un dit « Ah, en privé avec le Seigneur, s'il te plaît, c'est qu'il a un désir. » Ça communique aussi la foi. Je viens de dire, vous rappelez au début que les gens vraiment heureux ou les gens vraiment bénis sont ceux qui respectent la loi de Dieu. Est-ce que vous pensez qu'il dit ça dans le Bible? Et on voit que lui-même le croit. Il exprime maintenant son désir d'être parmi eux. Et qu'est-ce que cela montre si ce n'est qu'il croit vraiment ce qu'il dit? Il ne parle pas ici théoriquement. Il croit vraiment, et la foi nourrit son désir en fait. Et puis nous voyons l'humilité en disant « Ah, que je sache me conduire avec fermeté !» Il communique, il insinue son propre manque inné de fermeté. Il dit « Bah bon, pour moi c'est facile, hein, j'y suis déjà. » « Ah non, non, je veux, Seigneur, marcher avec fermeté. » Il n'essaye pas de se projeter comme quelqu'un ou comme quelque chose qui n'est pas. Et puis nous voyons aussi la dépendance de Dieu. Parce qu'à qui s'adresse-t-il pour obtenir de l'aide afin de respecter les lois? Il va directement à Dieu lui-même. Ah, aide-moi, mon Dieu. Donc la prière est la première et la plus importante des réactions, on veut dire chrétiennes, religieuses, face à la parole de Dieu. Que nous puissions tous avoir ce réflexe spirituel. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander. On peut dire, aide-moi Seigneur, aide-moi mon Dieu, je veux marcher dans la foi, je veux marcher dans l'humilité, je veux marcher dans la dépendance à ton égard, je veux toujours demander de l'aide. Aide-moi Seigneur à être comme ce psalmiste. Nos cœurs peuvent monter dans la prière ainsi. Le désir, la foi, l'humilité, la dépendance envers Dieu sont ceux qui vont alimenter ma propre vie de prière. Parce que si vous n'avez pas la foi, le désir, l'humilité, ce sentiment de dépendance, vous n'allez pas prier. Voyez, il faut ces choses pour vous pousser à la prière. Un manque de prière sincère montre un manque de ces qualités dans ma vie. Alors est-ce que cela reflète un peu notre vie de prière? Prions-nous pour l'aide de Dieu afin de nous conduire avec fermeté et de faire sa volonté. Alors regardez ici, sans chercher dans vos bibles, je vous partage juste quelques versets de ce psaume qui reflète cette attitude. Il dit par exemple, Seigneur, ta bonté remplit le monde, enseigne-moi ta volonté. Vous voyez la prière qu'il a? Il prie un peu plus tard, tu es bon Seigneur et tu fais du bien, enseigne-moi ta volonté. C'est une bonne traduction, il parle de statut, ça parle de la volonté de Dieu. Il prie plus tard, c'est un bien pour moi d'avoir été humilié, pour que j'apprenne quelle est ta volonté. Il dit au Seigneur dans la prière de tout mon cœur, je veux faire ta volonté, ainsi je n'aurai pas honte devant toi. Vous voyez ici que le manque de honte est lié non pas simplement à accomplir l'acte, oh, je l'ai fait, mais à la sincérité avec laquelle le cœur est engagé dans l'acte. De tout mon cœur, je veux faire ta volonté pour ne pas avoir honte. Parce que je fais à demi-cœur, c'est honteux. Le souci, donc la requête de prière, est pour une sincérité de cœur. Il prie plus tard, je m'applique à faire ta volonté. Est-ce que nous pouvons dire ça dans la prière demain matin? Je m'applique à faire aujourd'hui ta volonté, c'est ma récompense pour toujours. Ça c'est comme Jésus a dit. Il a dit, pour moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ce qu'il exprime ici. Il prie plus tard, reste mon appui pour que je sois sauvé. Je chercherai toujours quelle est ta volonté. Tu renvoies ceux qui ne font pas ta volonté. Traite-moi, je t'en prie, selon ta bonté et enseigne-moi ta volonté. Vous voyez le rapprochement ici très intime entre l'amour qu'a Dieu et ses statuts ou sa volonté. il connaît l'amour. Connaissant son amour, connaissant l'amour de Dieu, le psalmiste peut faire appel à ses statuts. C'est comme s'il disait, tant que tu m'aimes, dis-moi ce que tu voudras. Tant que tu m'aimes, tu peux m'ordonner à faire ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est un Dieu qui m'aime qui m'ordonne. Et lorsque nous avons une connaissance profonde de l'amour de Dieu, nous trouvons que ces commandements ne sont pas pénibles. Il dit plus tard, « Fais-moi bon accueil » ou littéralement, « Tourne ta face vers moi, je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. » Ça lui reste loin des gens sans foi ni loi, car ils n'obéissent pas à ta volonté. Là, on voit le lien entre ceux qui recherchent les ordonnances de Dieu et ceux qui reçoivent son salut. C'est clair que il n'y a pas de salut pour ceux qui cherchent uniquement le salut. Si tout ce qu'on veut de Dieu est d'être sauvé, il n'y a pas de salut. Avec le salut de Dieu vient sa personne, tout ce qu'il est, toute son autorité, etc. Si nous l'aimons, nous garderons ses commandements. Dieu l'a dit, Jésus l'a dit. Voici donc une idée pour poursuivre la volonté de Dieu dans la prière. Prier ses choses à Dieu. Et Dieu a une volonté sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Parce que nous prions la volonté de Dieu dans différents domaines. Alors quand on fait une liste de prières, comment est-ce qu'on l'organise? Quelle est peut-être la façon la plus habituelle d'organiser une liste de prières? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous savez ce que c'est, une liste de prières? Je me communique mal ici. On va écrire des choses pour prier. Ok, donc là, une idée, c'est différents types de prières. L'adoration, c'est-à-dire après la confession, l'intercession. Très bien. Mais après, quand on se met à mettre des sujets de prière, souvent on organise comment? Ok? Donc tu organises sur une liste tout ce qui touche à l'âme et puis tout ce qui touche au corps. Ok? D'accord, vous faites autrement? Pardon? Ok, différentes catégories. Bon, peut-être que vous ne faites pas comme moi. Moi, je pense souvent des noms, des personnes. C'est quand je mets. Vous faites peut-être autrement, je ne sais pas. On pourrait partager entre nous. Mais quand je parle aux gens, il me semble aussi que c'est souvent comme ça. Si quelqu'un a une liste de prières, il y a les membres de la famille, les noms des gens. Ou des. Souvent, même dans nos listes de prières, et souvent c'est des événements, des maladies, voilà, etc. Je crois que c'est très commun. Et c'est pas mauvais, hein, c'est une bonne chose. Mais je vais suggérer de créer une liste de prières organisée par des thèmes bibliques. Je vais juste vous donner plusieurs idées. Moi, j'ai deux listes de prières. J'ai ce que j'appelle des prières personnelles. Et là, je mets en premier lieu ma famille, ma femme, mes enfants, et puis des personnes, et puis des événements, la salle, etc. Et puis j'ai une autre liste, j'appelle ça des thèmes bibliques, des requêtes bibliques. Et là, moi j'ai un logiciel biblique, je fais là-dessus. Vous pouvez faire ça sur un fichier Word, si vous aimez bien être sur l'ordinateur. Sinon, vous achetez un cahier, pas cher. Et dans un sens, vous mettez liste de requêtes de prière qui sont par personne ou événement. Et vous retenez de l'autre côté, vous faites peut-être une ou deux pages, vous mettez un thème biblique, vous laissez vide toute une page, une autre page, vous mettez un autre thème biblique. Et sous ces thèmes, au fur et à mesure, vous mettez des versets bibliques qui parlent de ce thème. Comme ça, si vous voulez prier sur un thème, vous avez déjà écrit quelques versets bibliques qui peuvent stimuler votre passion, comme nous venons de voir, et qui peuvent vous pousser à prier, « Ah Seigneur, que ce soit vrai pour moi !» Ou si vous voulez prier pour des amis ou une personne, vous pouvez prendre un thème, vous prenez la personne et puis vous regardez, vous trouvez le thème et vous priez, vous lisez ces versets, ça nourrit votre prière. Donc je vais aller assez vite, mais juste vous donner quelques idées. Ma première requête sur cette liste, c'est, parce que je avant de lire, je prie souvent pour cela, l'illumination dans la lecture, que Seigneur ouvre mes yeux. Et j'ai plusieurs versets. Par exemple, j'ai le psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Je veux, dans ma lecture, connaître la bonté de Dieu. J'ai aussi ce verset. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je prie aussi, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Si je sais ce que c'est de lire et mon cœur ne bouge pas, incline mon cœur vers ta parole. Quand je lis ça, je dis, oh Seigneur, fais-le pour moi. N'aie en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit, d'une autre traduction. Alors une autre idée, ça vous devez construire vous-même, hein, donc je vous donne que des idées, c'est pas pour faire exactement comme moi. Le pardon, la miséricorde, la purification. Qui n'a pas besoin de ça? Le psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface les transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Vous pouvez lire ça en haute voix au Seigneur, c'est très personnel. Le contrôle de la langue. Proverbes 21-23. Ce sont des versets que j'ai, au fur des années, des mois que j'ai gardés. Qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien des tourments. Vous lisez ça, tout de suite, ça vous propulse dans la prière. Oh Seigneur, aide-moi avec la langue. Vous voyez, ça vous pousse à prier. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. Et vous pouvez chercher parfois dans différentes traductions, parfois vous trouvez une traduction qui le met exactement comme vous, qui vous frappe d'une certaine façon. Ben, prenez cette traduction, écrivez-le. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répond des méchancetés. Bon, aide-moi à méditer avant de répondre. Je ne sais pas naturellement. Vous voyez, vous lisez ces versets, ça vous pousse à dire, ah, que je puisse me conduire ainsi. Et notre requête, c'est le désir de poursuivre la sainteté. Parce que je sais que je n'ai pas naturellement ce désir. Donc que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. La Bible dit que nous ne recevons pas parce que quoi? Nous ne demandons pas. Combien de chrétiens vraiment prient pour une croissance spirituelle? La crainte de Dieu, ici j'ai plein de versets, il y en a beaucoup. Dispose mon cœur à craindre ton nom. Dispose mon cœur à craindre. Vous voyez, c'est Dieu qui agit dans le cœur pour qu'on puisse craindre Dieu. Ça, vous pouvez le prier pour quelqu'un d'autre. Un jeune, vous pouvez prendre la page que vous avez sur la crainte de Dieu. Vous avez plein de choses à prier pour ces jeunes. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous voyez, si je joue avec le mal, je ne crains pas Dieu. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Nos jeunes ont besoin de la crainte de l'Éternel pour détourner des pièges de la mort. Comment les protéger du monde? C'est la crainte. Ils ont besoin en eux la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir, etc. Bon, je saute. la liberté de tout péché asservissant, c'est-à-dire qui me rend esclave. Le psaume 119, 133, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et on se connaît, on sait qu'il y a certaines iniquités, certains péchés qui ont tendance à dominer plus que d'autres. On peut aussi prier pour l'amitié avec Dieu. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Voilà, ma consolation, c'est sa bonté envers moi. Vous pouvez prier pour les fruits de l'esprit. L'esprit développe en nous son esprit. Et là, vous pouvez lister l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, Seigneur, que je puisse marcher avec fermeté. Vous pouvez prier pour la direction et l'enseignement du Seigneur. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. Le psaume 143, verset 10. D'autres thèmes dans la Bible, l'hospitalité, que nous prions par rapport à ça. L'humilité. Là, il y a des versets, je ne vais pas prendre le temps de... J'ai pas pris le temps de mettre sur l'écran. Une foi croissante qui grandit de plus en plus, qui ne stagne pas. La pureté intérieure. Que la vérité, Seigneur, soit au fond de mon cœur. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi, Seigneur. Dans nos pensées. Que le sanctuaire de mon esprit soit un temple saint et agréable à toi. Aide-moi dans mes pensées, détourne mes regards des choses vaines, dit le psaume 119, 37. Et fais-moi vivre dans tes voies que tu as tracées. Je m'engage aussi, je n'ai pas mis ici, mais dans la prière, de nouveau avec le psaume 101, verset 3, qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Si vous dites ça régulièrement, Seigneur, je m'engage aujourd'hui de mettre rien de mauvais devant mes yeux. J'imagine, hein, sans penser à quelqu'un de spécifique, mais j'imagine que même dans cette salle, il y a des gens qui ne sont pas prêts à dire sincèrement au Seigneur, « Seigneur, je m'engage à mettre rien de mauvais devant mes yeux. » Mais la prière aussi, c'est ça, je prends des engagements devant Dieu. Aide-moi à vivre sachant que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Comme dit un autre verset. 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous absteniez de toute immoralité, etc. Et puis il dit à la fin, verset qui me touche souvent, verset 8, celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Donc rejeter ces choses, c'est rejeter Dieu personnellement. Je peux prier pour la joie. Est-ce que vous priez pour la joie? Ah, vous dites, moi, je suis naturellement joyeux. Ben, moi, je ne suis pas naturellement joyeux. Rends-moi donc la joie de ton salut. Ton esprit de bonne volonté me soutienne. Quand un homme tourne vers lui les regards en les rayonnant, de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Donne-moi la joie dans la prière. C'est même la prière soit un événement joyeux pour moi. Nous pouvons prier, là je vous donne juste ce que j'ai dans ma liste. Hein. Qu'une grâce abondante repose sur l'Église, un calme et une paix même sous pression, une bonne utilisation de mon temps, la protection contre les méchants, je prie souvent ça pour mes enfants, une connaissance personnelle de son amour, Éphésiens, il parle de qui se connaître l'amour de Dieu, etc. La force et la détermination à discipliner mon corps, que beaucoup des nations glorifient Dieu pour sa miséricorde, la victoire sur la colère, c'est sûr, hein, c'est plusieurs versets là-dessus. Est-ce que vous êtes quelqu'un de colérique? Est-ce que vraiment vous avez mis du temps à prier, chercher des versets, vous avez imploré le Seigneur, hein, donner la victoire? Nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Est-ce qu'il a besoin de sagesse? Voilà, ça c'est juste 23 thèmes, mais je suis sûr que vous pouvez trouver beaucoup d'autres. Mais si vous achetez un cahier comme ça, vous, voilà, vous mettez un thème, et puis au fur et à mesure, hein, vous n'avez pas besoin de chercher toute la journée pour remplir, mais dans votre lecture, vous dites, ah, ou vous lisez quelque chose dans votre lecture et ça vous fait penser à un autre thème. Ben, vous ajoutez ce thème et vous écrivez ce verset. Je ne prie jamais toute cette liste le même jour. J'ai pas le temps, ou je prends pas le temps pour tout faire. J'essaye de prendre là où j'ai laissé, et je reprends, et ça, il y a toujours plus de choses à prier que de temps pour prier. Et en priant ces choses, nous savons que nous prions la volonté de Dieu. On n'est pas laissé sans dire, je ne sais pas quoi dire. Non, en fait, il y a beaucoup de choses à nourrir ma conversation avec Dieu. Je fais exactement ce que fait le psaume 119. Je prends la parole de Dieu et je l'utilise pour parler au Dieu de la parole. Ça, c'est le génie de la Bible. Elle nourrit même notre prière. Voilà. Que Dieu nous aide à mieux prier. Notre